Merci d'être avec nous sur RFI, 22h ici à Paris, 20h temps universel.
Mathis Limano.
Ça ne vous a pas échappé, ce mercredi marqué les 100 jours de Donald Trump à la Maison Blanche. C'est le dossier de cette édition. 100 jours de décrets repoussant toujours plus les limites du pouvoir présidentiel. 100 jours de bouleversement de l'ordre mondial. 100 jours d'invectives, de déclarations choc. Et d'après Donald Trump lui-même, vous n'avez encore rien vu. À suivre, les affrontements confessionnels en Syrie. Ils ont fait une quarantaine de morts depuis hier entre combattants de la minorité druze et des factions proches du pouvoir central. Israël a mené des frappe ce mercredi pour protéger les druzes, dit Tel Aviv. Le torchon brûle entre le Pakistan et l'Inde. Ce soir, Washington appelle Islamabad à condamner l'attentat perpétré dans le Cachemire. Et puis c'est la mi-temps à Barcelone, 2-2 contre l'Inter de Milan. On joue les demi-finales allées de Ligue des Champions.
RFI.
On commence ce journal avec les 100 jours de Donald Trump à la Maison Blanche. 100 jours d'une diplomatie très personnelle. Le président américain négocie en direct devant les caméras, à l'image du clash avec Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Sur les réseaux sociaux, il critique les dirigeants du monde entier et il a confié les dossiers les plus sensibles à quelqu'un qui n'avait jusqu'ici aucune expérience en matière de politique étrangère, Steve Witkoff, un ami de longue date. Ukraine, Gaza, Iran, Witkoff est sur tous les fronts, avec comme seule carte de visite sa proximité absolue avec le président américain, Vincent Souriau.
Au pays de Donald Trump, la plus belle des vertus, c'est la fidélité. Or, avec Steve Witkoff, ça fait 40 ans que ça dure. Leur amitié remonte à 1986. Tous les deux, mania de l'immobilier, tous les deux richissimes. C'est un mec spécial, raconte le président américain, un vrai pote à moi. Cet ami a sorti le carnet de chèques pendant la campagne. Witkoff a versé plus de 2 millions de dollars au comité de soutien du candidat Trump. Et d'ailleurs, il ne se fait pas payer. C'est un envoyé spécial qui se déplace sur ses deniers avec son propre jet privé. Expérience diplomatique, zéro, mais Steve Witkoff réfère directement à la Maison Blanche et pour ses interlocuteurs, ça n'a pas de prix. Sa mission d'origine, obtenir une trêve à Gaza, il y est parvenu dès le mois de janvier et Donald Trump, ravi de son art du deal, a élargi son champ d'action. Négociation entre l'Ukraine et la Russie pour parler avec le régime iranien. Mais entre-temps, la guerre a repris au Proche-Orient. Vladimir Poutine, lui, ne veut rien lâcher et les mauvaises langues estime que Witkoff pourrait bien s'être fait rouler par des dirigeants, eux, très expérimenté.
À lui acquis de l'expérience par la force des choses, Volodymyr Zelensky. L'Ukraine sur le point de sceller un accord avec Washington. Il porte sur un accès aux minerais stratégiques présents dans le sol ukrainien. Le ministre de l'économie envoyé par Kiev est en route pour Washington. Fraîchement élu Premier ministre du Canada, Mark Carney se rendra lui à la Maison Blanche d'ici la semaine prochaine, au moment où les deux alliés historiques sont en froid face à la guerre douanière et les menaces d'annexion de Donald Trump. Mais les 100 jours du président américain n'auront pas fait qu'ébranler l'ordre mondial. À l'intérieur même du pays, les attaques se sont multipliées, notamment contre les intellectuels, les artistes, la science, avec cette semaine le licenciement de centaines d'experts du climat. Autre cible de l'administration Trump, les universités, et des conséquences concrètes pour ces dernières et les enseignants qui y exercent. Antoine Yoshinaka, professeur de sciences politiques à l'université de l'État de New York à Buffalo.
Les pressions, on les sent directement. Je vais vous donner un exemple. Toute subvention de recherche, par exemple, qui provient du gouvernement fédéral, est menacée. Moi, j'ai des collègues qui, juste vendredi dernier, ont appris que leur subvention avait été complètement éliminée par le gouvernement fédéral, sans aucun avertissement et sans aucune précision du pourquoi. Et bon, on s'est fait dire, par exemple, par nos dirigeants à notre université, que si on a des projets de recherche qui contiennent certains mots-clés, il y a toute une liste de mots comme race, comme genre, comme wokisme, en tout cas, tous ces mots-clés, les mots interdits, là, bannis, si on veut, par la droite, on doit les enlever de nos projets de recherche, sinon on risque encore une fois d'en subir les conséquences.
Antoine Yoshinaka, professeur de sciences politiques à l'université de l'État de New York, invité Dan Kantner à la mi-journée sur RFI.
RFI.
En Syrie, de nouveaux affrontements près de la capitale Damas, dans les villes de Jaramana et Sahnaya. Des affrontements qui ont fait une quarantaine de morts depuis hier entre combattants druzes et groupes alliés du pouvoir central dominé par les islamistes, qui disent pourtant s'engager ce soir à protéger toutes les composantes de la société syrienne. C'est dans ce contexte, Alice Froussard, qu'Israël a mené des bombardements en Syrie ce mercredi, des frappes d'avertissement pour protéger les druzes, explique Tel Aviv.
Au moins 3 explosions de drones ont été entendues autour de Sahnaya, dans la campagne aux alentours de la capitale syrienne. Et depuis l'après-midi, les avions israéliens continuent de voler au-dessus de Damas. Israël n'a pas attendu. Le pays a ordonné à l'armée de se tenir prête à frapper, je cite, « des objectifs du pouvoir syrien si la communauté druze était menacée ». Dans un communiqué conjoint, Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Israël Katz, évoquent, je cite, « un message ferme à Damas ». Ils laissent ainsi entendre qu'ils attendent du régime syrien des mesures afin d'empêcher tout préjudice à cette minorité qui représente 3% de la population syrienne. Des déclarations qui ne sont pas surprenantes, car l'hostilité d'une partie des druzes syriens envers les nouvelles autorités a déjà été instrumentalisée par le passé par Benjamin Netanyahou. Depuis la chute de Bachar al-Assad, Israël a multiplié les gestes d'ouverture, envoyant des colis humanitaires ou autorisant certains druzes syriens à se rendre en pèlerinage en Israël. Et dès le mois de mars, l'État hébreu avait affirmé les défendre. Des propos qui avait été immédiatement rejeté par les dignitaires druzes, qui avaient alors réaffirmé leur attachement à l'unité de la Syrie.
En correspondance, Alice Froussard. La Turquie appelle ce soir Israël à cesser ses frappes aériennes en Syrie. Depuis le Liban, le chef de la minorité druze appelle les fidèles syriens à refuser l'ingérence d'Israël. 3 avions bombardiers d'eau en route vers l'État hébreu. Ils sont envoyés par l'Italie et la Croatie. D'importants incendies nourris par des vents violents ravagent les environs de Jérusalem. Le gouvernement a appelé l'armée à se déployer. Les secours font état d'au moins 22 blessés légers. Le Premier ministre Netanyahou met en garde contre le risque d'une propagation des incendies à Jérusalem. Le Pakistan et l'Inde sont-ils au bord d'une guerre ouverte? Des affrontements ont lieu chaque jour à la frontière depuis l'attentat mardi dernier au Cachemire indien. 26 personnes tuées par une organisation islamiste soutenue par Islamabad, d'après New Delhi. Le Pakistan redoute maintenant une riposte et affirme détenir des informations crédibles sur une frappe indienne dans les prochaines heures. Le Premier ministre pakistanais et le chef de la diplomatie américaine se sont appelés ce soir. Washington appelle les deux pays à la retenue. En Haïti, ce sont plus de 1600 personnes qui ont été tuées entre janvier et mars, dont une majorité de membres de gangs, bilan communiqué par les Nations Unies. L'ambassadeur de Russie en France dénonce des accusations infondées, accusations de cyberattaque. Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot a directement pointé du doigt Moscou dans plusieurs affaires, notamment le piratage de la campagne 2017 d'Emmanuel Macron, ce que la Russie nie en bloc. Venons-en à ce retour, celui des irréductibles gaulois Astérix et Obélix sur Netflix, dans une mini-série animée et réalisée par Alain Chabat. Elle s'inspire de l'album de bande dessinée Le Combat des Chefs, publié en 1966, à laquelle Alain Chabat apporte une touche moderne et personnelle, Sophie Dorlotin.
Toute la Gaule est occupée par les Romains.
Toute ? Ben non ! Un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur.
Pour soumettre le célèbre village breton, César valide une idée de la romaine Mégadata, organiser un combat des chefs. La loi gauloise stipule que le vainqueur du duel obtiendra l'allégeance du village du vaincu. Un chef qui se revendique gallo-romain, un collabo donc, A plus B égale X, a toutes les chances de l'emporter, d'autant que le druide Panoramix n'est plus en état de préparer sa fameuse potion magique.
Et les Gaulois deviennent romains !
Gallo-romains.
Humour fidèle à l'esprit du scénariste originel René Goscinny, trouvaille graphique rendant hommage au dessinateur Albert Uderzo, cette série porte tout de même la griffe d'Alain Chabat. Ce sont des blagues et des anachronismes, des références dans l'air du temps habilement amenées. Avec ses 5 épisodes de 30 minutes pouvant séduire de 7 à 77 ans, il réussit brillamment son pari. Voilà de quoi réjouir Netflix, la plateforme qui vient d'augmenter ses tarifs en France. France attend beaucoup de cette série qu'elle diffuse en 38 langues pour ses quelques 300 millions d'abonnés dans le monde.
Astérix et Obélix, le combat des chefs, c'est sorti aujourd'hui sur Netflix. Et puis pas de potion magique, mais des buts à Barcelone, 2-2 contre l'Inter Milan. On joue la 50e minute dans cette demi-finale aller de Ligue des Champions. Merci d'écouter RFI, il est 22h10 ici à Paris.